cours de philosophie politique par le père Marie-Dominique Philippe le 4 juin 1999 à Saint-Chaudard.
En quoi le mariage est-il nécessaire à la procréation? L'amour des conjoints a-t-il besoin d'un contrat? Le don des corps ne remplirait-il pas cet office? Bon, alors, reprenons. Au point de vue chrétien, je regarde d'abord au point de vue chrétien. Au point de vue chrétien, c'est net. Jésus lui-même a repris en disant qu'il reprenait que Moïse avait, à cause de la fragilité, ce petit passage très intéressant dans l'Écriture, et c'est à l'égard du mariage. Le mariage, le sacrement, il faudrait mettre, hein, en quoi le sacrement de mariage est-il nécessaire à la procréation? Je parle du sacrement de mariage. Ça, institution chrétienne. L'État n'y comprend rien quand il est laïque. La culture d'aujourd'hui, comme elle est en dehors d'une culture chrétienne, n'y comprend rien. Le sacrement est un mystère. Il faut la foi pour le comprendre. L'Église maintient sa liberté au-delà du point de vue de l'État avec ce qu'on appelle les mariages clandestins. Il y a toujours des mariages clandestins. Alors j'explique en deux mots ce que c'est qu'un mariage clandestin. En raison de certains situations politiques, pour un Africain, par exemple. Et il ne peut pas avoir la permission de quitter son pays et il voudrait se marier avec une Européenne. Il a le droit, hein, au point de vue de l'Église. Et au point de vue politique, quand c'est un point de vue purement politique, il empêche de sortir de son état, de son pays légitimement. Il le fait clandestinement, avec de faux papiers. Et l'État n'y voit rien. Il ne pourrait pas, donc, se marier sous son véritable nom. Il est là, une situation. Alors, il est marié politiquement sous ce faux nom. Et dans sa conscience de chrétien, il dit, c'est pas juste ça. Je veux me marier en tant que mon vrai nom. Il demande ça. Alors, on est obligé d'avoir recours à l'évêque. Parce que c'est sérieux. Et on explique à l'évêque la situation. Et l'évêque vous dit, bon, très bien, vous pouvez le marier clandestinement. Personne ne sait rien. Pas de témoin, rien. Il se marie à la sacristie. On prend tous les renseignements, puis ça se garde secrètement. Chez l'évêque. Alors, il est marié devant l'Église et devant l'État, il est marié. Mais, oui, c'est très intéressant ça, parce que ça montre que l'Église regarde la personne humaine pour le mariage. C'est un droit. Même si, politiquement, il y a eu des histoires politiques, on dit, oh, c'est ce qui se passe, c'est pas. Au moment où il y a eu des révolutions. Alors on a été du parti qui n'a pas réussi. Et alors on est sous un empêchement de quitter son pays. On ne peut pas le quitter. Et on le quitte par la petite porte. On est à ce moment-là comme des lapins qui passent en dessous de la clôture. Il faut un petit trou et puis passe la nuit en dessous de la clôture. Et rien n'est changé, mais il change de nom tout. Personne ne voit rien. Alors vous voyez, l'Église garde ce droit au mariage et au sacrement de mariage. Alors que l'État empêchait le mariage. Bon, ça montre bien que entre chrétiens, c'est le sacrement de mariage qui compte et qui fait tout. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas baptisé, à ce moment-là, le sacrement ne signifie rien. Donc, il se marie à l'État, et puis c'est tout. Et l'État fait un semblant de... Pareil que ça, c'est curieux de voir ça. Le maire fait un discours à la manière du curé. On voit très bien. Donc, vous voyez, c'est très vrai. Le sacrement de mariage est nécessaire pour fonder une famille. C'est l'Église qui dit ça. C'est notre foi qui reconnaît le sacrement de mariage. Mais si je n'ai plus la foi, ou si je n'ai pas la foi, le sacrement de mariage signifie rien. Alors, il y a, selon les diverses coutumes religieuses, des initiations, des semblances. C'est très curieux et c'est intéressant à voir que, de fait, on reconnaît même au plan politique qu'il est bon qu'il y ait quelque chose de sacré. Parce que la procréation est quelque chose de sacré. Reconnaître l'existence de Dieu et reconnaître que la procréation est un acte humain qui fait appel à quelque chose de sacré, donc de divin, que ce n'est pas un acte comme n'importe lequel. Mais c'est bien évident que le sacrement de mariage est nécessaire que pour le croyant. L'amour des conjoints a-t-il besoin d'un contrat ? C'est l'État qui veut un contrat de mariage. On n'a pas besoin, au sens rigoureux. Le sacrement demande uniquement l'amour d'amitié entre les conjoints, la fidélité qui implique un amour d'amitié. C'est la seule chose. Vous voyez, j'ai vu dans ma vie, alors que je n'ai pas fait beaucoup de ministère, hein, mais un jeune homme que je connaissais bien, qui voulait se marier avec une fille qu'il aimait, qui n'était pas pratiquante, et voulait se marier pour la rendre pratiquante. Alors je lui dis, moi je ne bénis pas un mariage qui n'implique pas un véritable amour. On ne se marie pas pour convertir sa fiancée, son épouse. Oui. Ce serait une sorte de, vous voyez, de manque de respect à l'égard d'une loi humaine naturelle. Au nom de la foi, au nom de la charité, on se marierait. Non, on se marie quand on s'aime. Et j'ai refusé de les marier. J'ai dit non, je veux pas. Vous n'allez que vous marier auprès du curé. Je suis persuadé que le curé, comme il ne vous connaît pas, vous mariera à l'église. Parce que c'est ce qu'il voulait. un an après, je voyais tous les deux revenir en demandant de se séparer. Alors je lui ai dit, voyez, maintenant vous êtes avec moi et vous venez pour que je vous aide à trouver une solution. L'année dernière, vous étiez contre moi parce que je ne voulais pas ce mariage. Parce qu'il n'était pas vrai. Alors maintenant, je vais dire qu'en effet, je n'ai pas voulu ce mariage parce qu'il n'était pas vrai. Mais c'est vous qui l'avez voulu, coûte que coûte. Et j'ai su, la fiancée était la fille d'un médecin qui avait un certain pouvoir de conviction, de psychose, comme ça. Il mettait les gens dans un état particulier. Et à ce moment-là, ils perdaient vraiment leur liberté. Et on a fait intervenir ce point de vue-là, puisque le garçon, ça l'avait impressionné que je disais qu'il ne pouvait pas, que je ne voulais pas le bénir le mariage. Ça l'avait impressionné. Et il m'avait dit, puisque vous me dites ça, je ne me marierai pas. Mais c'était la veille du mariage qu'il a dit ça. Alors le père était furieux. Tout le monde sait que vous allez vous marier. Alors il a agi de cette manière-là. Alors pour la nullité du mariage ensuite, on a dit, si ça avait été l'épouse qui avait subi cette influence, il y aurait nullité du mariage. Mais pour un homme, non. Alors, on disait ça, c'était déjà il y a 15 ans de ça, même plus 20 ans. Maintenant, on reconnaîtrait que l'homme peut très bien subir cette psychose, aussi bien que l'épouse. On n'a pas accepté la nullité. Alors que moi j'étais pour la nullité. Je croyais vraiment qu'il n'y a pas eu de mariage. Donc l'amour des conjoints a-t-il besoin d'un contrat? Non. Sûrement pas. C'est pour l'État, ça. Le don des corps ne remplirait-il pas cet office? Le don des corps n'est pas un contrat. C'est bien plus que ça, ça fait partie de l'amitié. C'est leur amour. Mais le contrat est juridique. C'est à l'égard des biens. C'est pas à l'égard du corps. Et le corps n'est pas un bien, il est mon être. La situation du corps. Hein. Mon corps n'est pas un avoir pour l'âme. Il fait un avec mon âme. Et le corps, c'est mon être. Et alors c'est mon être d'une façon spéciale, pas la même façon que mon âme. Mon âme est source de mon être. Tandis que mon corps, il est l'effet, le resplendissement, le rayonnement. Vous avez dit, je crois, qu'il n'y a pas de principe propre en philosophie politique. Oui, de principe nouveau et propre. Dès lors, y a-t-il une véritable analyse philosophique de la politique? Situation particulière, on va essayer de comprendre. Où doit-on se contenter d'une simple description? Non. Si la philosophie politique dépend des principes de l'éthique, doit-on dire que c'est une science subalternée? Oui, pourquoi pas? Une politique qui ne reconnaît pas le point de vue éthique ne devient une politique qu'au niveau économique et au point de vue art. Il n'y a plus de vraie politique. va très loin. Mais il faut le reconnaître. Qu'est-ce qui parle de la finalité de l'homme ? L'éthique. Et l'éthique personnelle. L'éthique monastique. De la personne humaine. Il n'y a pas de nouveaux principes au niveau politique. Il n'y a pas une finalité propre humaine politique. Vous voyez, et c'est pour cela que de fait, Platon, lui, met la politique comme l'unique philosophie éthique. Il n'y a pas d'éthique. Il y a une politique. Et les principes moraux sont écrits en grosses lettres au niveau politique, donc ceux qui dirigent, et en petites lettres vis-à-vis des citoyens. Pour Aristote, il y a une éthique personnelle. Donc, il y a une philosophie éthique, personnelle. Et au point de vue politique, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le bien commun. Mais le bien commun, est-ce qu'il me donne un principe propre, naturel ? Qu'est-ce que c'est que le bien commun ? Le bien commun, c'est celui qui n'est ni personnel, ni individuel. Il est commun. Et qu'est-ce qui fait le bien commun ? C'est les citoyens qui coopèrent entre eux pour avoir une vie humaine meilleure. Et donc, on le fait, le bien commun. Le bien commun ne descend pas du ciel comme une nouvelle nature. Non. Le bien commun d'un pays fait partie de ce pays. Et il se fait progressivement suivant la coopération des citoyens. Quand il n'y a plus cette coopération des citoyens et qu'il y a des syndicats qui luttent l'un contre l'autre, il y a une lutte des classes. La lutte des classes risque de supprimer la coopération entre travailleurs et ceux qui tiennent les clés de la technique, de la science. Il y a une opposition. Et donc, la coopération se fait grâce aux syndicats. C'est les syndicats qui doivent s'entendre. Et à ce moment-là, la coopération reprend. Pensez aux grèves. La grève est un signal d'alarme. Situation limite. On ne peut pas continuer comme ça. Nous avons besoin qu'on s'inquiète davantage de nous. Et alors, pour parler, bah, très bien. Et alors, ça repart. On a perdu 15 jours. On a perdu, pendant ce temps-là, le bien commun. Il a maigri, hein. Ça a forcé. C'est le carême des biens communs, ça. Les grèves. Et quand les grèves durent très longtemps, l'État doit verser. Donc l'État s'appauvrit. Forcément. Ça reprend. Il n'y a plus d'amour. Il y a des rivalités. Et le bien commun diminue. Et on tend vers un gouvernement plus fort. Et ce n'est plus le bien commun. Et on se donne à ce moment-là une autorité qui ne relève plus du bien commun, qui ne relève plus du bien de la communauté, qui est une autorité du dictateur. Et ordinairement, les dictateurs s'imposent par la violence, par la force. Vous voyez, la désagrégation d'un pays. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de principe. Hein. C'est la coopération. Donc le principe, c'est quoi? C'est la prudence. C'est la prudence politique. La prudence politique est une vertu acquise qui, elle, s'acquiert. C'est pas un principe qui descend du ciel. Elle se fait, notre prudence. Donc, nous sommes tous responsables d'un pays. Et étant responsables, nous faisons le bien commun. Le bien commun s'impose, mais nous le faisons. Et quand le bien commun est très fort, c'est parce qu'il y a une très grande entente entre les citoyens. Et qu'ils peuvent vraiment s'aimer. Alors, à ce moment-là, on peut comprendre comment s'édifie une société, une communauté politique. Alors on reconnaît que ce bien commun qui est fait par l'ensemble des citoyens, ce bien commun s'impose comme une mesure, comme une loi, à titre exemplaire. C'est pas une vraie finalité. Vous voyez, c'est beaucoup plus une loi. Alors là, oui, il y a quelque chose qui est une loi et qui s'impose. Et qui réclame une certaine justice. Justice légale par rapport à la loi. Mais la loi n'est pas un principe. Hein. La loi, elle est faite par les hommes. Et elle peut être alors quelque chose qui a autorité. Parce que c'est le bien public. Ça repose sur le bien commun. Ce qui fait que l'État n'est pas une création arbitraire. Mais elle n'est pas une création totalement naturelle. Elle implique une coopération amicale des citoyens entre eux qui veulent une certaine loi qui permet à ce moment-là aux citoyens de s'aimer, de s'entraider, d'être de vrais citoyens qui s'aiment. Et on voit cela surtout dans les moments particulièrement périlleux, où l'amitié entre citoyens est une chose très grande, très forte. Et le bien commun reprend à ce moment-là une très grande force. Mais au sens strict, il y a une union sacrée pour maintenir ce bien commun, pour bien maintenir ces liens qui nous permettent et qui permettent de gouverner, qui permettent de vivre. Alors voyez, c'est ça qui est de très particulier à la politique. C'est qu'on est en face d'un bien commun qui s'impose, qui est le fruit d'une civilisation, de coutumes, d'habitudes, de régimes positifs. Il y a des lois. La loi n'est pas un principe. La loi précise une loi nette, un principe naturel, mais elle n'est pas un principe. Et de fait, la politique et la philosophie politique vont reposer sur ces lois, sur Et ça, c'est très fort. Sans ce que je maintiens, parce que je crois, si vous me le disiez, si vous me disiez quel est ce principe nouveau qui n'est pas atteint par la politique, par l'éthique monastique, l'éthique personnelle, alors je m'inclinerai tout de suite. La seule chose, c'est le bien commun. Mais le bien commun n'est pas un principe. C'est une loi, une mesure. C'est une sorte d'exemplarité. Qui n'est pas toujours une exemplarité. Parce que quand les lois sont des lois injustes, ça diminue énormément le crédit du bien commun. Parce que c'est souvent alors le bien, les lois d'un parti. Et au plan politique, on verra, ce sont les partis politiques qui divisent le bien commun et qui enlèvent à l'État tout son pouvoir. Vous avez la politique d'un parti. La politique d'un parti, par définition, n'est pas politique. La politique doit être la politique du tout. Il peut y avoir, au niveau des élections, des partis, mais dès qu'ils sont élus, ils sont pour tous. Vous voyez ce qui se passe dans l'Église. Une petite Sainte Thérèse, dès qu'elle est reconnue comme sainte, elle est donnée à toute l'Église. Et il peut se faire qu'une sœur de Saint-Jean puisse être plus proche de la petite Thérèse qu'une carmélite. C'est très bien fait, ça. Le bien commun de l'Église implique les saints. Ça fait partie du bien commun de l'Église, ça. Et quand l'Église proclame ses saints, le bien commun de l'Église augmente. Et quand c'est non seulement la sainteté, mais en même temps que la déclare docteur de l'Église, on la donne à l'Église pour que les théologiens qui cherchent la vérité soient plus proches de la petite Thérèse que les théologiens qui ne cherchent pas la vérité. Parce que la petite Thérèse a dit « J'ai cherché toute ma vie la vérité ». Elle le dit le dernier jour de sa vie, comme un testament. Le testament de la petite Thérèse est tout ce qu'elle a dit le dernier jour de sa vie. C'est impressionnant, ça. Alors, vous voyez, il y a quelque chose d'analogue. Quand une loi est passée, bien qu'elle ait été émise par un parti, qu'elle a été formulée par un parti, du fait qu'elle ait été lue, elle devient la loi de tous. Donc, la loi n'est pas seulement ce qui a été élaboré par un parti politique, puisqu'elle est votée et elle devient une belle. Et je crois ça très important pour essayer de comprendre cette situation particulière du bien commun. C'est vraiment une situation particulière, c'est quelque chose de sui generis. Donc, à ce point de vue-là, puisque c'est quelque chose de sui generis, ce quelque chose réclame une connaissance nouvelle, qui n'est plus la connaissance éthique tout court, pour juger si une loi est bonne ou mauvaise. Ça, c'est le devoir de tous les citoyens. On doit voir si cette loi n'est pas contraire à l'éthique personnelle. Si cette loi est contraire à l'éthique personnelle, elle est mauvaise comme loi. Forcément. Donc, en conscience, Vous devez tout faire pour l'éviter. Attention, hein. Faut pas dire ça trop. Si elle est contraire, et avant de dire qu'elle est contraire, il faut bien, bien peser. On peut très bien dire, je ne vois pas très bien, mais ça me semble pas très catholique, cette loi. Contraire au bien commun, personnel. Et dans ce point de vue personnel, il y a des chrétiens. Donc une loi qui serait explicitement contraire à ce que l'Église catholique a proclamé est une loi impraticable pour les catholiques. Donc à ce moment-là, elle n'est plus la loi d'un pays et le bien de ce pays. Elle devrait, pour être une bonne loi, comprendre que le point de vue politique est au service des personnes et service de leur bonheur. Et que la politique n'est pas au-dessus du bien personnel. Vous voyez, on a toujours pris ce point de vue d'Aristote là-dessus. Ça, c'est important. Si on voit aussi que cette loi, au point de vue économique, détruit un pays, le mettant au chômage, cette loi est mauvaise. Il y a toujours deux mesures pour le bien commun. La mesure de l'éthique personnelle et puis le point de vue économique d'un pays. Si cette loi le point de vue, dans le point de vue politique, il y a toujours le point de vue de l'efficacité. Le point de vue économique est présent. Et je ne peux pas émettre une loi qui va mettre l'État dans une situation limite au point de vue économique. C'est pour ça que c'est complexe, hein. C'est pas simple du tout. Et c'est là où on voit la très grosse différence avec la prudence monastique. La prudence monastique, elle n'implique pas un point de vue économique directement. Elle l'implique dans la mesure où ses membres sont non seulement engagés politiquement à travers une famille, donc elle doit faire attention à ça, et puis à travers un tout. Le point de vue économique intervient dans un point de vue politique, mais n'intervient pas comme une loi suprême. Quand l'économie intervient comme une loi suprême, on peut dire que cette loi n'est plus humaine. Vous voyez, c'est pour ça que le bien commun est quand même quelque chose de très très important à préciser, mais très difficile à préciser. Parce qu'il est fait d'art et d'éthique. L'éthique, toute seule, ne donne jamais un bien commun. L'éthique me donne un bien personnel, qui est plus important que le bien commun. L'éthique me regarde mon bien personnel. Le bien commun ne peux regarder que mon conditionnement humain et non pas ma finalité. Alors je peux avoir une sorte de phénoménologie politique, une étude du bien commun et de l'évolution du bien commun et de tous les éléments qu'il faut pour que ce bien commun puisse vraiment progresser. C'est à partir de là qu'on pourrait voir toutes les parties nécessaires pour une politique. Parce que le fruit d'une politique, c'est le bien commun. C'est son fruit immanent. Et c'est en même temps quelque chose qui dépasse les membres comme qualité. Alors là, il y a quelque chose sur lequel on doit tout le temps venir pour bien évaluer quel est le bien commun d'un pays qui n'est pas le même que le bien commun d'un autre pays. Et le bien commun aujourd'hui n'est pas le même que celui du début de la semaine, du début de l'année. Et quand on regarde certains biens communs, il y a là quelque chose que je crois capital pour nous.